Et on pourrait presque dire hein, que les lois sont tout ce processus d'idéal qu'il y a en nous qui fait que on réussit à tenir et à vivre et à survivre dans ce monde. Et il s'avère que ben, cette loi va condamner Jésus. Il va être crucifié. Et voilà. Donc, il s'entretenait de tout ce qui était survenu, et il arriva, comme ils s'entretenaient et discutaient ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, allait avec eux. Et ça c'est quand même la manière dont c'est écrit, la manière dont Luc l'écrit. C'est parce qu'ils s'entretiennent entre eux. Ils s'entretenaient et discutaient ensemble, c'est alors que Jésus lui-même, s'étant approché, allait avec eux. Dès qu'on on cherche, avec la parole, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche ne serait-ce qu'à travailler, ouvrir la parole ensemble, il s'avère que mystérieusement, discrètement, et ça c'est le témoignage de Luc, surprenant quand même, combien de temps, ben, les 60 ans après, qui explique ce que vivent les communautés chrétiennes, ce que vivent les chrétiens de se mettre à méditer, à réfléchir sur la vie de Jésus, s'entretenir entre eux, et alors il y a comme si quelqu'un vient s'introduire dans la conversation, une présence qui se rend présente. Et il arrivait, comme ils s'entretenaient et discutaient ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, allait avec eux. Et c'est tellement beau ça aussi. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ça, c'est formidable, quoi, les yeux, hein. On ne voit bien qu'avec le cœur. Vous vous souvenez de ça? Hein, ça, c'est Saint-Exupéry et l'affaire du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et là, ben, il s'avère certainement que bien souvent, on ne voit pas parce que le cœur n'est pas bien ouvert. Hein. Et là, eux, ils sont ailleurs. Où sont-ils? Ils sont dans un lieu que vous connaissez, que nous connaissons tous. Hein. Les bouleversements de nos propres douleurs, de nos peines, de nos déceptions, de nos illusions déçues. Et ils vont le dire, hein. Alors voilà, ils vont vous dire, hein. Alors voilà, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Comment est-ce que c'est possible de ne pas voir la vie? De ne pas voir la vie. Comment est-ce que c'est possible? Et ce matin, ça fait 2 matins là où je me réveille, et puis je me dis, mais bonheur, bonheur de vivre. Je me réveille avec en proclamant bonheur de vivre. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que tu es heureux de vivre? Et m'est venu, d'une part, parce que je suis vivant. Je suis heureux j'ai un bonheur de vivre parce que je suis vivant. Je suis là, créé, je ne me suis pas fabriqué moi-même, je reçois la vie avec mes 100 000 milliards de cellules qui vivent et tout ça. Là, je suis un être vivant, au milieu d'une création et d'être vivant, je suis vivant. Et puis, ce qui m'est venu aussi, mon bonheur, c'est que Jésus est venu et qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Parce que ce bonheur-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire qu'il soit enlevé? Je suis vivant et même que j'ai mal aux dents, c'est parce que je suis vivant. Et est-ce que on pourra m'enlever que le Christ n'est pas mort, crucifié, et qu'il n'est pas ressuscité. Par contre, si mon bonheur, il est fondé sur « Ah, il y a du soleil aujourd'hui. Ah, je vais faire des choses intéressantes aujourd'hui. Ah, je... » Et il va y avoir toutes sortes de choses qui font que mon bonheur va être bouleversé, parce qu'il va se passer toutes sortes de choses dans mon existence. Hein. Et je crois que ça va être ça ce que Saint Paul va nous dire. Et Paul va découvrir cette chose-là. Et ça, ça c'est le mystère de véritablement la conversion chrétienne et du mystère de la foi chrétienne. Alors on avance sur cette affaire. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors il leur dit, « Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Là, vraiment, ce questionnement puisse venir, qu'il y ait quelqu'un qui soit pas au courant de leur détresse, de leur naufrage, ça, ils ont du mal à comprendre, quoi. Mais d'où tu viens, quoi ? D'où tu viens ? D'où es-tu, là ? C'était la Pâque à Jérusalem. Tout ce qui s'est passé. Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous en marchant ? Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Et alors, là, on voit quand même, c'est surprenant que... On n'est pas dans un travail de psychanalyse. Hein. Mais il faut pouvoir exprimer ce qu'on vit. Il faut pouvoir dire les choses. Qu'est-ce que vous vivez ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous vivez ? Et qu'est-ce que vous vivez de votre foi ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? C'est quoi le naufrage de votre foi ? Causez, dites-le, dites ce qui se passe, dites-le vous. Répondant, l'un du nom de Cléophas lui dit, toi seul séjourne à Jérusalem et ne sais pas ce qui s'est passé ces jours-ci. Bon, et il leur dit, quoi donc, ça c'est l'humour, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer ? On imagine hein, une présence là, et qui leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? Ouais, un peu, quand même, ça fait quand même un peu le gros quand même. Hein. Le Fils de Dieu, le Fils créateur créant avec le Père, qui vient... marcher avec les hommes, qui vient, qui sauve l'humanité, qui fait son œuvre de libération par sa mort et sa résurrection, et qui leur dit, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? Et ils lui dirent, alors voilà, c'est là, on va voir, et ils vont confesser, et peut-être ce sera le démarrage de leur confession, qui vont commencer à comprendre ce qui se passe en eux. Et, répondant, l'un du nom de Cléophas lui dit, « Toi seul séjourne à Jérusalem et ne sais pas ce qui s'est passé ces jours-ci. » Et il leur dit, « Quoi donc ?» Et ils lui dirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui fut un homme, prophète, puissant en œuvre et parole devant Dieu et tout le peuple. » Voilà. Donc on a cette confession, première confession de foi quand même. Hein. Voilà Jésus, le Nazarénien, un homme prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Donc déjà une première confession quand même qui est pas mal. Le nomme prophète, c'est pas le Messie, mais... voilà, c'est déjà une reconnaissance de quelque chose. Et comment l'ont livré nos grands prêtres et nos chefs pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Donc on a là, et on garde bien, hein, ça c'est tout le temps c'est très important, et garder là par Luc cette affaire de la condamnation à mort par les chefs des prêtres, donc du monde de la religion, hein, ce que fait la religion de Jésus, qu'est-ce qu'on va faire, tout monde religieux, qu'est-ce que ça fait la religion de Dieu, d'une certaine manière. Ça a été crucifié, et nos chefs, pour être condamnés à mort, et l'ont crucifié. Or, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà, ça, et c'est là la grande affaire. Nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Quelle était leur foi? Il allait délivrer Israël. Alors, il est quoi? Est-ce que c'était eux, ils étaient un penchant des zélotes? Est-ce qu'ils allaient penser que Jésus allait renverser le gouvernement? Est-ce que ils allaient quelle était l'espérance? On espérait ça. Il allait délivrer Israël. Hein? Il y a plusieurs mouvements de messie comme ça qui soulevaient le peuple pour pouvoir prendre les armes et puis se libérer de l'emprise des Romains, hein, ce que déjà les Maccabées avaient fait. On espérait bien ça. Bon. Alors, ben, ça c'est sûr que là, ils sont déçus, découragés. Hein, et il semble bien que il y a aussi ce mouvement de Judas qui était dans ce mouvement-là, espérait la libération. Et la déception progressive de Judas, il y avait bien le prophète puissant en œuvre et en parole, mais progressivement, une espèce de déception que le grand jour de la révolution, c'était pas ça que Jésus était venu apporter. Jésus était venu apporter une révolution intérieure qui allait bouleverser tout l'univers, mais c'était pas une révolution qui est au terme de... Hein, la révolution ne fait qu'un tour de roue. Puis on se retrouve au même point après quelques temps. Quoi. Donc là, c'était de... Bon. Or, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais, avec tout cela, voici le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Alors aussi, toujours, hein, le troisième jour, et on voit quasiment apparaître dans ce texte-là quasiment presque tous les éléments des confessions de foi, de ce qui sera proclamé dans ce que nous, le dimanche, on proclame le credo dans nos assemblées. Voilà, ça le fait le troisième jour. Mais aussi, quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés, s'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues, disant avoir vu aussi une vision d'ange, qui disent qu'il est vivant. En tout cas, ils sont honnêtes, ils relatent ce qui s'est passé, puisqu'on nous l'a dit, et Luc reprend le passage du dessus, voilà, des femmes sont venues, qu'est-ce qu'elles nous racontent, on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, quand même. Et puis après, et certains de ceux qui sont avec nous sont allés au tombeau. Là, c'est intéressant de voir qu'il semble là qu'il n'y ait pas que Pierre qui va au tombeau après. Il y en a certains qui sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, ils méditent, ils réfléchissent à toute cette affaire-là. Et je crois que là aussi, certainement, ce travail de réflexion sur leur espérance et les souvenirs des paroles de Jésus commence à faire son travail. Et il leur dit, comment leur dit-il ça? Ô homme inintelligent et lent de cœur à croire en tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc on a ces deux paroles pour les... qui s'adressent aux disciples et qui sont... tous les disciples. Hein, la manière dont Luc voit ça, parce que certainement c'est son expérience, d'être inintelligent et lent de cœur à croire. À croire en quoi? De s'assurer dans ce qu'ont dit les prophètes, mais on croit, c'est de s'assurer de toutes les paroles qu'on a reçues. Et ça, moi, je trouve que on est quand même léger, quoi, parce qu'on a tellement reçu de paroles qui ont brûlé nos cœurs, des paroles sûres et certaines, qui étaient vraiment comme un roc formidable de notre vie, à des moments où on a eu l'impression d'avoir le ciel s'ouvrir, qu'on a vu les choses, quoi. Comme ces femmes voient des anges, comme on a eu un éclairage intérieur, on avait la sensation que on avait touché le Seigneur, comme Marie-Madeleine. Et cependant, homme inintelligent et lent de cœur à croire. Alors là aussi, c'est que nos inintelligences, hein, c'est aussi notre problème de petit à petit les comprendre. Qu'est-ce que c'est que nos inintelligents? Qu'est-ce que c'est que nos processus répétitifs d'inintelligence, quoi? Comment est-ce qu'on se réenfourne dans une espèce de labyrinthe ou de spirale où on finit par tomber, quoi. Comment est-ce que ça s'enclenche, ces affaires-là? On connaît comment on appelle ça, les RDR? Qu'est-ce qui est disproportionné et répétitif? Ce sont des réactions. Les réactions disproportionnées et répétitives. Et c'est très, extrêmement intéressant de se prendre conscience de nos réactions disproportionnées et répétitives. Parce qu'elles nous disent quelque chose, des endroits où on va tomber dans un trou. Et de la même manière, je crois qu'on a des moments où des suites un peu de paroles ou des choses font qu'on perd la foi. Une espèce de trou, comme si des trous noirs, de fois, une espèce d'attirance, puis comme si on ne pouvait pas sortir de ce truc-là, quoi. Alors que nous avons des paroles et des expériences d'une force extraordinaire qui, de toute façon, nous tire des trous noirs. Ces espèces de trucs qu'on plonge là, et là, hein, je vous disais, cette espèce de parole là, qui, moi, le matin, aujourd'hui, en ce moment, cette vérité fondamentale, je suis vivant, je suis un être vivant, et la vie, hein, il a dit, je suis la vie, je suis la vie, donc voilà, la vie, je suis vivant, et le Christ est mort pour moi, et il est ressuscité, qui m'enlèvera ça? Si mon bonheur est fondé sur ça, qui peut me l'enlever? Par contre, il peut se passer toutes sortes d'événements, des trous noirs, des pertes, des glissades, des trucs, des conflits, des gens qui ne m'aiment pas, des gens qui me font des croche-pieds, qui me font des croche-pieds, toutes sortes de choses, où je peux tomber, mais est-ce que ça peut m'enlever le bonheur intérieur, le bonheur de vivre? Et là, on verra que, quand on voit Saint Paul, cette espèce, et il le dira, mais des conflits, des bagarres, des gens qui me haïssent, des gens qui veulent me tuer, des détresses, des maladies, j'en ai à l'appel, mais qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Et on sent bien qu'à un moment donné, c'est ça qui fait que ça change, quoi. Et c'est de ça dont Luc veut nous parler. De cette expérience qui fait que on tient malgré, avec, dedans, et on avance, quoi. Et on avance. Ô homme inintelligent et lent de cœur à croire en tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et entrât dans sa gloire? Pourquoi est-ce que le Christ souffre? Pourquoi est-ce que Jésus de Nazareth doit mourir crucifié, condamné par la loi? Rien ne peut vous en sortir. Aucune loi, aucun effort, aucun... La seule chose qui pourra vous en sortir, c'est le Christ. Il l'a accompli, il l'a fait. À un moment donné, Paul a une parole extraordinaire. Il dit, pourquoi est-ce que vous essayez toujours d'avoir une foi formidable? Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez la foi de Jésus-Christ pour vous. Il a accompli les choses. Lui, il a eu la confiance incroyable dans son Père. Vous, la seule chose qui vous est demandée, c'est de faire confiance à Jésus. Et l'incroyable, tout ce qui est impossible à faire, Jésus l'a fait. Lui, et c'est ça qu'il vient faire, c'est en cela qu'il nous libère de tout ce qui serait besoin d'être fait, que représente la loi, toutes les bonnes choses qu'il faudrait qu'on fasse, tout ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, toutes les bêtises qu'on a fait, toutes les erreurs et qui nous ont fait tomber. Tout ça, c'est ce que Paul va mettre sous le nom de la tête de la loi. Tout ça, c'est la loi. Et ces justifications qu'on se redonne et qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, et que c'est à cause de ça qu'on est dans le malheur et que la prochaine fois, nous n'y tomberons pas. Et en fait, nous y tomberons. Parce que le seul moyen pour que nous n'y tombions pas, c'est que nous mettions notre foi dans celui qui a la foi dans le Père. Et c'est ça d'être chrétien. Voilà pourquoi cette place incroyable de Jésus. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons en le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons dans le Fils qui est mort et ressuscité. Et Paul va être là de façon insistante, en disant, mais donc si le Christ est mort, vous êtes mort. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est fait. Vous êtes des gens libres, libres de vos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire sa psychanalyse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son travail. Mais c'est intérieurement tout ça, c'est une puissance formidable. Et Paul le prouve. Et tous les disciples de Jésus, les évangélistes, vont le prouver. Et donc, et on voit combien Luc essaye d'exprimer ça. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et ainsi entra dans sa gloire? Et là, c'est beau aussi, c'est que Luc ne parle pas de la résurrection de Jésus, il le dira après seulement, mais lui, il va parler, il entra dans sa gloire. Il entre dans la victoire, c'est la résurrection. Il entre dans la victoire complète, le cri de victoire. C'est gagné. Hein, ce cri que Jésus... pour Jean, il le dit au moment de la croix. Hein, c'est gagné. Voilà. Pourquoi ? Parce que il continue dans ce lieu-là, condamné par la loi à être crucifié, alors qu'il est juste, lui le Fils de Dieu, il le fait pour nous. Et on aura toujours cette parole toujours surprenante qu'il faut pouvoir méditer, prendre, et de Paul, il est mort pour nous.